de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Au bout de 3 mois de mariage, je sais que j'ai eu un œil au beurre noir et puis ça a duré 11 ans. Au début, il ne buvait pas du tout et après, il a commencé à boire et à être de plus en plus violent.
Qu'est-ce qui vous retenait de partir ?
Mes enfants, il a peur de me trouver sans maison, sans rien du tout.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'affaire du meurtre d'Alexia Daval en Haute-Saône a été élucidée cette semaine, comme on le sait, lorsque son mari a finalement avoué qu'il en était l'auteur après avoir affiché durant 3 mois l'innocence d'une douleur extrême. Ainsi, la lumière a-t-elle été braquée devant l'opinion sur le grand fléau des violences conjugales, comme cela avait été déjà le cas, notamment en 2003, quand Marie Trintignant était morte sous les coups de son compagnon. Une femme est tuée tous les 3 jours en France dans de pareilles conditions et un homme tous les 12 jours. Une femme sur 10 vivant en couple est victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Et chacun voit bien que la façon dont une société affronte un tel phénomène a beaucoup à nous dire sur ses équilibres ou ses déséquilibres. C'est en historienne des systèmes judiciaires que Victoria Vanneau, ingénieure de recherche au CNRS, mon invitée ce matin, s'est attachée à ce sujet sur la durée de 2 siècles. Afin de rédiger un livre intitulé par antiphrase « La paix des ménages », mais sous-titré « Une histoire des violences conjugales du 19e au 21e siècle ». Elle y démontre que les archives des tribunaux ont beaucoup à nous apprendre sur l'ensemble des drames dont ils ont eu à se saisir d'âge en âge et sur les évolutions de la manière dont, en face d'une société elle-même en mouvement, entre la morale et le droit, entre la justice pénale et la justice civile, ils ont tâché de maîtriser quelque peu le fléau dont il s'agit.
Elle s'appelait Cécile, et la pluie sous ses cils se mêlait à l'eau des averses quand elle rentrait par la traverse. Il la voulait docile, frappée. C'était facile. Les coups pleuvaient dans la maison où l'homme avait toujours raison. Assez, assez, assez de tous ceux qui lèvent la main. Assez, assez, assez de ceux qui s'en lavent les mains. Ici ou ailleurs, la même douleur et la peur. Assez, assez, assez de tous ces tyrans déguisés en père ou en mari, en patron, gentil fiancé. On a trouvé Cécile endormie sous ses cils. Un jour dans la grande maison où l'homme avait toujours raison, sa jeunesse immobile, notre rage inutile, 3 lignes en petits caractères dans la rubrique des faits divers. Assez, 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 derrière un voile ou un volet. Assez, assez, assez de ces vies de femmes volées. Hier, aujourd'hui, la même folie et l'oubli. Assez, assez, assez. Jamila tombée sous les pierres, le cœur, le corps brisé, sous l'œil exalté de ses frères. Elle s'appelait Cécile.
Victoria Vanneau, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé une chanson de Marie-Paul Bell, une chanson de 2011 qui s'appelle « Assez ». C'est Marie-Paul Bell qui en a fait la musique. Les paroles sont de Dominique Valls. De ces vies de femmes volées, hier et aujourd'hui, la même folie et l'oubli. Alors, permanence ?
Malheureusement, oui, permanence. Permanence des violences conjugales, des drames conjugaux que la justice tente d'enrayer. Mais malheureusement, on ne peut pas changer les comportements et il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'éducation des hommes, des femmes et leur capacité à vivre ensemble et de gérer leurs rapports autrement que par la violence et la brutalité.
Permanence et en même temps des mouvements que dans votre livre vous évoquez, au miroir de la justice. Dans
oui.
Le prétoire.
Au XIXe siècle, contrairement aux idées reçues, eh bien, les violences conjugales avaient été saisies par la justice pénale, puisque c'est celle-ci qui m'a intéressée davantage. Et les magistrats n'ont pas été sourds aux souffrances des hommes et des femmes victimes des abus de violence de l'autre conjoint. Alors le processus a été assez long. Il a fallu évidemment légitimer les compétences des uns pour pouvoir se dire, eh bien, tiens, nous, magistrats du pénal, de l'ordre judiciaire, eh bien on peut s'immiscer dans ces couples pour que tout simplement les violences cessent.
Est-ce que, comme historien du droit, vous pouvez déjà nous dire quel est le départ entre justice civile et justice pénale et ce que cette opposition, cette distance peut signifier en termes sociologiques et en termes moraux ?
Habituellement, tout ce qui relève de la famille et du couple doit être régi par la norme civile, le code civil et en l'occurrence à l'époque le code de 1804. Et la norme civile est là pour régler les rapports entre époux, les liens et la possibilité, en cas de mésentente, de pouvoir se séparer ou de divorcer. Quant à la norme pénale, elle est là pour régler, on va dire, l'ordre social, s'intéresse davantage à l'ordre public, et elle n'a pas vocation à s'immiscer dans la vie du couple, sauf pour y faire régner l'ordre, et c'est pour ça qu'on prévoyait le crime de bigamie, et régler aussi le crime d'adultère, puisque l'adultère faisait encourir le risque de faire pénétrer un enfant bâtard, et ça c'était inenvisageable. Donc ces deux normes-là concourent, on va dire, à leur manière, à la gestion des rapports entre hommes et femmes, mais il se trouve que c'est plus difficile pour le couple marié, pour la norme pénale, de s'immiscer à travers cet entre-deux-là, alors que pour les couples de concubins, là, comme les deux individus sont étrangers, il n'y a pas de souci.
Cette difficulté est au centre de votre réflexion historique. Et quoi la justice au pied du lit ? Doit-elle aller jusque-là ?
Oui, c'est ce que l'avocat général Dupin en 1839 a répondu à Maître Ledru-Rollin, le même Ledru-Rollin qu'on voyait sur les barricades et défendre la République, la liberté. Eh bien oui, la justice doit être au pied du lit. Et pour Dupin, la justice, il a très bien mené sa plaidoirie en 1839 pour défendre cette femme qui avait été victime de l'appétit sexuel de son mari, hein, qui lui demandait d'avoir des rapports contre nature. Elle s'en était plainte et évidemment on ne reconnaissait pas le viol conjugal puisque le but du mariage c'est de procréer, d'avoir des rapports sexuels. Et Ledru-Rollin défendait justement l'envie du mari en estimant que le mari avait le droit effectivement de demander à sa femme d'avoir des rapports sexuels. Et pour Dupin, la justice a sa pudeur, mais elle ne doit pas non plus avoir un bandeau sur les yeux.
Là, elle est au pied du lit.
Et là, elle peut être au pied du lit. Et c'est comme ça qu'à travers l'attentat à la pudeur, on a pu quelque part reconnaître en tout cas cet abus de la force d'un mari, d'exiger en tout cas des actes sexuels un peu contre nature, un peu fort pour sa femme.
Donc ça nous conduit immédiatement à la grande question du principe de l'autorité du mari. Et j'observe que dans le cours de ce 19e siècle, ceux qui défendent le principe de cette autorité peuvent se référer à la Genèse, où on lit « Je multiplierai tes maux ». Ce propos est adressé aux femmes. « Je multiplierai tes maux, tu enfanteras dans la douleur, tu seras sous la puissance de ton mari, et il te dominera. C'est une citation qui a été beaucoup agitée dans le cours du 19e siècle.
Ben oui, il se trouve que les juristes qui ont travaillé autour de la question de l'autorité maritale...
Ils sont pétris de culture classique.
Exactement, eux recours à l'histoire pour pouvoir, déjà d'une part, expliquer que les comportements d'aujourd'hui étaient quand même moins pires qu'hier, et en retraçant la généalogie de cette autorité maritale-là, de cette puissance maritale-là, eh bien, il y avait l'influence chrétienne, du christianisme, qui justement rappelait la toute-puissance de l'homme et rappelait effectivement que la femme lui devait obéissance et respect.
Alors avant d'en venir aux origines de ce 19e siècle auquel vous êtes attaché, Victoria Vano, peut-être doit-on poser la question en termes plus généraux, et je vais vous donner à entendre un texte de Benoît de Groult, vous savez l'auteur de Ainsi soit-elle, qui a été une des figures majeures du côté de la littérature du combat féministe au 20e siècle. C'est sa préface à un livre qui s'appelait « Crie moins fort », beau titre, « Les voisins vont t'entendre ». Un livre d'Erin Pitzet, traduit en français, c'est un livre écrit en anglais, une lecture de Denis Manuel sur France Culture, le 6 février 1988. Je crois que vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai choisi.
Des idées reçues, des phrases toutes faites, quelques dictons, reflets d'une sagesse soi-disant populaire, des boutades égrillardes ou des plaisanteries usagées, tant elles ont servi à camoufler une parfaite indifférence au problème, voilà tout l'écho qu'ont pu espérer jusqu'ici les femmes battues. Les femmes battues, quelle curieuse idée, dira-t-on. D'abord, il y a si longtemps que cela dure, qu'on se résigne très bien à ce que cela dure éternellement. Dans ce contexte hypocrite, les coups et blessures, la domination d'un être humain sur un autre au moyen de la brutalité ne représente qu'un détail, qu'un des inconvénients inhérents à la condition féminine. D'ailleurs, les femmes n'en meurent pas. Ça se saurait, disent les bonnes gens, ceux qui ne veulent rien savoir. Et une raclée de temps à autre n'a jamais fait de mal à personne. Ne dit-on pas une bonne raclée ? En plus, chacun sait, et Freud, pour notre malheur, est venu le confirmer, que les femmes sont masochistes par nature. Inconsciemment, elles cherchent les coups parce qu'au fond, elles aiment être battues. La preuve ? Vous n'allez pas me dire qu'elles ne pourraient pas s'en aller si elles voulaient. Comment espérer dans ces conditions que cet être ose témoigner sans haine et sans crainte ou puisse prendre une décision libre et indépendante ? Tout l'incite à subir et à se taire.
Alors, Victoria Vano, voilà rassemblé un certain nombre de propos qui nous sont devenus familiers, d'inquiétude, d'angoisse devant une situation durable. Elle s'enracine loin, cette situation ?
Oui, elle commence, on va dire, plus fortement au Moyen-Âge, puisqu'on autorisait le droit de correction au mari. Le mari pouvait battre sa femme, mais modérément, à condition qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, comme on disait autrefois. La femme n'avait d'ailleurs pas le droit de s'en plaindre. Progressivement, on s'est rendu compte que les coups étaient de plus en plus violents, que le sang coulait, et donc au fil du temps, à l'époque moderne notamment, on a permis à la femme de s'en plaindre. Mais le mari restait toujours le chef de la famille, et il pouvait toujours la battre, toujours avec modération.
Avec d'ailleurs, dans le monde rural en particulier, beaucoup de moqueries envers l'homme qui se laissait dominer à la maison par sa femme. On l'installait à l'envers sur un âne.
Alors c'était la chevauchée, le charivari, effectivement, puisque là on était dans un cas de usurpation de la puissance maritale par la femme. Et la communauté n'acceptait pas qu'un mari se laisse comme ça subvertir. Et la magistrature était d'ailleurs présente lors de ces cérémonies et pendant très longtemps, ça donnait une caution à cette peine. Progressivement, la justice s'est un petit peu désengagée, mais socialement, culturellement, ça s'est maintenu.
Le XVIIe siècle continue assez largement dans cette direction, mais le XVIIIe marque une évolution.
C'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte, et notamment autour de quelqu'un comme François Darrault qui écrit un traité des injures en 1775, où effectivement il reconnaît au mari le droit de correction, mais il n'accepte pas que la femme ne puisse pas s'en plaindre. Donc on a une ouverture. Mais assez rapidement, 10 ans plus tard, dans un répertoire universel, le juriste Guyot estime que non, au contraire, la femme n'a pas forcément le droit de s'en plaindre. Alors ce répertoire-là universel est intéressant car il servira quand même de base de réflexion aux juristes du 19e siècle, dans la définition notamment qu'il donne du mari. Et c'est ça qui commandera un petit peu l'état d'esprit, notamment de cet article 230 du code civil.
Essentiel. Là, vous courez la poste, on est déjà à la période révolutionnaire.
Mais c'est ça, en fait, ça représente un peu l'état d'esprit dans lequel, on va dire, les rédacteurs du code civil étaient pour pouvoir justifier que la femme était l'inférieure de l'homme, qu'elle était incapable et que le mari lui devait protection.
Il faut que vous nous l'explicitiez, cet article 213, qui n'a été aboli que tout récemment ?
Oui, en 1938. Alors cet article 213 dispose tout simplement que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance au mari. Une phrase assez claire qui prévoit et qui règle les rapports des époux entre eux. Cet article-là traduit l'esprit effectivement des anciennes conceptions que les juristes avaient et se faisaient des rapports entre hommes et femmes, mais surtout il traduit aussi l'état d'esprit de Napoléon qui disait tout simplement qu'il y a une chose qui n'est pas française, c'est qu'une femme fasse ce qui lui plaît. Et cet article-là, finalement, vient entériner sa vision de dépendance de la femme et surtout érige l'épouse en incapable.
La Révolution française, on aurait pu attendre d'elle qu'elle fasse évoluer les choses dans un sens positif à nos yeux, mais en fait ce n'est pas tellement le cas.
Non, en fait, certains révolutionnaires ont essayé de prôner l'égalité.
Camille Desmoulins, grâce à Lucile.
Exactement, mais finalement c'est pas cette opinion-là qui a prévalu. Ils se sont plus intéressés, les révolutionnaires, à régler la gestion de la communauté, la possibilité pour les époux de se choisir l'un et l'autre et non pas être tributaires de la volonté des parents.
Introduction du divorce qui est très important.
Exactement.
Du point de vue qui nous occupe.
Ils n'ont pas réglé, on va dire, la question du droit de correction, mais ils ont permis et, on va dire, légiféré autour du divorce en 1792. Mais ils ont également aussi permis à l'épouse, à la femme, qui était victime de violence, de se plaindre grâce à un article 14 d'une loi de 1791 qui prévoyait et qui érigeait en circonstances aggravantes le fait pour un homme de commettre des violences sur une femme, un enfant, un vieillard, mais le fait qu'on prévoit cette circonstance aggravante-là d'une violence d'un homme sur une femme, c'était déjà un progrès, et permettre aux femmes victimes de violences de s'en plaindre au niveau pénal.
Donc c'est un moment essentiel, c'est une vraie nouveauté, et du coup le Code civil de 1804, l'article 213, apparaît comme un recul. J'observe que Portalis, un des rédacteurs du Code civil essentiel, disait dans son discours au corps législatif du 16 Ventose en 11, les deux époux concourent à un objet commun, mais ils ne sauraient y concourir de la même manière. Ils sont égaux en certaines choses, ils ne sont pas comparables dans d'autres. La femme a besoin de protection parce qu'elle est plus faible. La prééminence de l'homme est indiquée par la constitution même de son être. L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège. Fin de citation. Et on peut lire de façon sous-jacente l'idée que si la femme n'est pas obéissante, alors il n'est pas complètement illégitime qu'elle en soit châtiée.
Exactement. Et en plus, ces propos-là de Portalis traduisent l'état d'esprit des révolutionnaires qui avaient remis au goût du jour la virilité de l'homme, la robustesse, c'était l'homme régénéré et qui s'était servi finalement de tous les discours du Moyen-Âge, et notamment avec l'influence du christianisme, qui avait donc érigé la femme en être faible, qui avait besoin d'un protecteur.
Le conseiller d'État Thibaudot écrit à ce moment-là « Il y a une chose qui n'est pas française, c'est qu'une femme puisse faire ce qui lui plaît. La nature a fait de nos femmes, écoutez bien, nos esclaves. Le mari a le droit de dire à sa femme, « Madame, vous ne sortirez pas. Madame, vous n'irez pas à la comédie. Madame, vous m'appartenez corps et âme. » Cela conduit loin.
Oui, en fait, il reprenait effectivement les propos de Napoléon, hein, puisque c'était ça que Napoléon avait commandé, et c'était ça qui a déterminé en fait tous ces articles du Code pénal, parce qu'on a l'article 213, mais on a également l'article 214, qui oblige la femme à habiter au domicile de son mari, et qui ne peut pas en sortir, et si elle le quitte, elle sera accusée d'abandon de domicile conjugal.
Alors nous en arrivons à la période ultérieure, après avoir vérifié, ce n'est pas une surprise que Napoléon était légèrement misogyne, c'est le moins qu'on puisse dire. On en arrive à la période ultérieure et c'est là que vous apportez, me semble-t-il, du nouveau Victoria Vano en réhabilitant dans une assez large mesure la justice de ce temps-là, du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a dit, elle n'a pas fermé les yeux et qu'elle s'est occupée, préoccupée de la question des violences conjugales, notamment de celle des hommes sur les femmes, ce qui est plus fréquent, sans être exclusif.
Exactement. En fait, au XIXe siècle, bon, on passe l'étape donc de la codification. On a d'un côté le code civil de 1804 et le code pénal de 1810. Il faut savoir quand même qu'entre-temps, les rédacteurs du code pénal avaient envisagé un conjugicide qui aurait permis justement d'ériger en circonstances aggravantes le fait pour un mari, cette fois c'était vraiment spécifique et spécifié, un mari qui se serait rendu coupable de violence envers son épouse.
On dit conjugicide comme on dit homicide ou...
Alors en fait,
ou l'infanticide.
Exactement,
ou c'était parricide.
C'était une circonstance aggravante qui s'insérait un peu comme l'infanticide et le parricide. Alors quand on étudie un petit peu tous les documents qui ont donné lieu, on va dire, au code pénal de 1810, on n'a pas de réponse exacte pour savoir pourquoi le conjugicide a disparu du code pénal. Donc on suppose déjà d'une part qu'il y avait dans le code civil la possibilité de divorcer ou de se séparer de corps pour un motif assez clair qui était l'excès sévice et injure grave.
Ça a duré jusqu'à la Restauration.
Exactement, 1816, 1884, le divorce est rétabli, mais en tout cas, le motif d'excès sévice et injure grave permettait en tout cas aux femmes victimes de violence de demander la séparation de corps ou le divorce. Mais surtout, ce qui a conduit, à mon sens, à la suppression de ce conjugicide dans le code pénal, c'est certainement cet article 324 qui, lui, est resté et qui prévoyait l'excuse du mari qui s'était rendu coupable du meurtre de sa femme pris en flagrant délit d'adultère. Et si on avait maintenu cette circonstance aggravante du conjugicide, les magistrats auraient eu beaucoup de mal à démêler le vrai du faux et il y aurait eu un conflit juridique assez important. Donc, je pense que le conjugicide a totalement disparu. Mais ce qui était intéressant avec ce conjugicide, c'est qu'il traduisait l'uxoricide de l'Ancien Régime.
Luxor, c'est la femme, l'épouse.
La femme, et donc je tue la femme, c'est le fait de tuer son épouse. Et c'était aussi prendre en considération et traduire avec le langage de Napoléon, et bien tout simplement l'article 14 que j'évoquais de la loi 1791, qui avait établi cette circonstance aggravante. Mais ça n'a jamais existé, donc du coup, les magistrats ont tout simplement fait avec les outils qu'ils avaient à l'époque, et ils ont essayé de faire rentrer ces violences dans les textes qui existaient, dans ce qu'on appelle le droit commun.
Mais alors où en est le jus castigandi hérité du Moyen-Âge, le droit de châtier?
Alors, le jus castigandi a fait couler beaucoup d'encre, parce que les juristes, les doctrinaires, comme on dit, se sont beaucoup interrogés sur cette question de savoir est-ce que le droit de correction, avec cet article 213, était maintenu. Et pour eux, il était certain que non. Alors, le tournant de cette prise de conscience est plutôt les années 1860, autour du Second Empire libéral, où vraiment les auteurs se disent « Non, maintenant, il faut vraiment qu'on arrête avec ce droit de correction. » L'article 213, pour beaucoup de juristes, n'est pas une résurgence de ce droit de correction. Et donc, ils vont beaucoup écrire pour défendre les femmes victimes et surtout légitimer aussi quelque part la compétence de la norme pénale en la matière.
On est sensible au fait que les romantiques, par exemple Jules Michelet, pour marquer le progrès que la civilisation contemporaine porterait, insiste beaucoup sur ce droit de châtier dans la période du Moyen-Âge ou antérieurement. Dans son livre « Les origines du droit français », Michelet souligne combien le droit coutumier donnait la possibilité au mari de battre sa femme, de lui donner le fouet, de la frapper avec des verges ou avec un bâton sans que la justice ait à s'en mêler. On enjoint au mari, je cite, de châtier sa femme à la manière des enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison. Cette assimilation entre la femme et les enfants, qu'on a parfaitement le droit de châtier physiquement, est importante, non ?
Bien sûr, parce que c'est elle qui règle, on va dire, les rapports dans la famille. Le mari, c'est tout simplement le chef. La famille étant une petite société, c'est au mari qu'on a dévolu ce pouvoir-là, et donc il est normal qu'il châtie tous ceux qui sont incapables et tous ceux qui sont mineurs, et la femme en fait partie.
Mais avec des adverbes qui sont un peu difficiles à interpréter. La femme peut être battue modérément. Le mari ne doit pas dépasser les bornes raisonnablement permise. Cela laisse évidemment à la justice dans les prétoires une latitude d'interprétation.
Ces adverbes-là sont importants puisque on les retrouvera d'ailleurs dans les actes d'accusation, puisque les magistrats, pour essayer de montrer la continuité, la puissance et la difficulté de vivre à deux, insisteront sur le fait que les violences aient été sévèrement administrées, atrocément. Donc il y a cet effet de continuité, de profondeur qui va servir en tout cas aux magistrats à qualifier les faits.
Je voudrais vous conduire, Victoria Vano, dans le cours de cette émission consacrée aux violences conjugales, notamment au XIXe siècle, vers une citation que j'emprunte à la chronique des tribunaux de 1875. Cette presse qui rend compte de ce qui se passe dans les prétoires est une source qui est incroyablement féconde. On peut trouver énormément d'informations sur la vie sociale, sur les normes qui la régissent. C'est un extrait des Chemins de la connaissance de Roland Auguet sur France Culture, le 16 octobre 1984.
Par une étrange prédestination, elle s'appelle Moutarde. Et elle comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises de la Seine, non, il est vrai, pour avoir traité son mari au sinapisme malgré lui, mais pour l'avoir un peu proprement débarbouillé avec du vitriol. Quand on a un nom aussi caustique que celui de Moutarde, un tel procédé n'a rien qui doive étonner. Seulement, Charrier, le mari, a eu le tort d'épouser, sans y regarder à deux fois, une femme de 40 ans. En janvier dernier, Charrier, homme rassis de 50 ans, ancien sous-brigadier de sergent de ville, épousait en toute cordialité Marie Moutarde. Et 6 mois plus tard, le 14 juillet suivant, la lune de miel se dénouait par la tentative de vitriolisation qui amène aujourd'hui l'épouse sur le banc des accusés. Il paraît que Marie n'avait pas tardé à rendre son homme fort malheureux. D'après lui, elle serait d'une malpropreté révoltante et d'une avarice sordide. Elle le faisait littéralement mourir de faim, l'accablait de reproches et de mauvais traitements. Pourtant, il s'était résigné à prendre ses repas au restaurant, à vivre ses journées loin d'elle et ne rentrer que le soir. Mais elle le disputa et le malmena encore. Enfin, elle s'avisa de lui faire des scènes de jalousie. Il avait assisté à un baptême en compagnie d'une jeune cuisinière. Elle prétendit que cette cuisinière était sa maîtresse. Le matin du 15 juillet 1875, le sieur Charrier balayait la salle à manger en présence de sa femme qui se préparait à manger. Une querelle s'éleva. Elle me dit « Va donc chercher la pourriture avec laquelle tu étais jeudi. » Je répliquais « Je n'ai pas besoin d'aller chercher dehors ce que j'ai chez moi. » Ils échangèrent des injures. Elle sortit de la salle à manger, entra dans sa cuisine et revint, tenant à la main une tasse dont elle lança le contenu au visage de l'accusé. Il s'agissait d'acide sulfurique. Ce matin-là, contrairement à ses habitudes, elle avait bu un verre d'absinthe.
Là, on est, Victoria Vano, à l'inverse. C'est la femme qui se venge des brutalités de son mari. Le vitriol et le poison sont d'ailleurs, à lire les comptes rendus des procès, sont les armes favorites des femmes qui attaquent ou qui se vengent.
Exactement. Ça permet en plus de catégoriser ce type de violence, puisqu'on sait très bien qu'à travers les armes, donc le poison et le vitriol, qui sont souvent pour le vitriol l'arme du crime passionnel, permet d'identifier tout simplement l'auteur féminin de ces actes. Mais pas toujours, ceci dit. Il y a des femmes qui utiliseront des fois les armes blanches, les couteaux, assez violemment d'ailleurs, elles sont assez habiles.
Alors maintenant, je voudrais que nous voyions comment l'évolution des esprits, et notamment des comportements des juges, c'est défini. Et il faut dire qu'il y a eu l'influence d'un certain nombre d'auteurs extérieurs au monde de la justice. Je pense par exemple aux Saint-Simoniens, c'est important, non?
Effectivement, donc les Saint-Simoniens ont permis au mouvement féministe de pouvoir revendiquer un certain nombre de droits sur l'espace public, sur la scène publique, notamment demander et revendiquer l'abrogation de l'article 213. Alors, un premier mouvement existera autour de Madame Herbineau de Mauchamp, qui sera la directrice de l'éphémère Gazette des femmes, qui avait pour vocation un petit peu d'émanciper la femme mariée au niveau de la législation, de la jurisprudence, de la musique, de la mode, etc. Et cette femme-là essaiera justement de porter devant le Parlement l'abrogation des textes du Code civil. Mais ça sera un échec. Et elle s'appuiera notamment sur la charte de 1830 qui revendiquait notamment l'égalité de tous les les Français. Ça ne marchera pas malheureusement, et non plus, puisque l'expérience sera renouvelée en 1848, les mouvements féministes n'arriveront pas à imposer en tout cas cette suppression.
Mais les femmes sont très importantes dans la hiérarchie des Saint-Simoniens, autour de Bazar et du Père Enfantin.
Oui.
Eugénie Niboyer en particulier, ou Suzanne Voilquin, Elisa Lemonnier, Pauline Roland. Est-ce que ça a contribué à faire évoluer la réflexion sur les violences à l'intérieur du couple ?
Alors, étonnamment, pas tant que ça. Je pense qu'elles se sont davantage intéressées aux droits politiques de la femme, aux droits civils, mais elles ne réglaient pas tant que ça les rapports entre individus, puisque c'était souvent des femmes issues des classes, on va dire, bourgeoises. Ce que démontrait d'ailleurs Ernest Le Gouvet, dans les classes un peu aisées, les rapports n'étaient pas aussi conflictuels que dans les classes populaires. Et souvent, elles oubliaient, elles avaient bien conscience des violences dans les couples, mais c'était pas ça qu'elles revendiquaient en premier dans les discussions.
C'est le temps où George Sand, tout de même, dénonce le mariage comme une prostitution légale.
Exactement.
Son mariage avait été, bref, je ne pense pas qu'elle ait été battue, mais elle se soucie de cette question.
En fait, elle s'en est souciée et elle le qualifiait comme ça puisqu'elle ne pouvait pas agir. La femme était une incapable quand elle était mariée. C'est ce que Paul Gide d'ailleurs dira. C'est le mariage qui rend la femme incapable. À l'extérieur, la femme célibataire a tous ses droits, elle jouit de tous ses droits. Et c'est pour ça que Georges Sand dénonce le mariage. D'ailleurs, phrase qui sera reprise par Balzac dans La femme de 30 ans, lui qui était peu porté sur le féminisme. Mais c'est vrai que c'est une lutte assez importante qui arrivera en 1904, au moment du centenaire, à des actions très concrètes, puisque au pied de la colonne Vendôme, on va brûler le code civil, ce fameux code qui a été écrit par les hommes pour les hommes et qui oppresse et écrase les femmes.
C'est le moment tout de même où les choses évoluent et ça n'a forcément des conséquences lentement sur la situation de la femme, puisque c'est en 1861 qu'à Lyon, pour la première fois, une femme se présente avec succès au baccalauréat. Et c'est le moment aussi où un certain nombre d'auteurs contestent l'ordre marital. Je pense par exemple à ce philosophe important qui a été Paul Janet. On est en 1855, Paul Janet qui parle, pour la dénoncer, de tyrannie domestique. Il dit de toutes les tyrannies, c'est la plus odieuse parce qu'elle est irrémédiable. Et il en dresse une typologie précieuse et graduée qui concerne très directement l'histoire des violences conjugales. Il y a, dit Janet, la tyrannie grossière et odieuse qui ne craint pas d'employer la violence et qui répand la terreur. La tyrannie capricieuse, saccadée, bonne à ses heures, mais contradictoire, qui meurtrit l'âme par des blessures toujours nouvelles et ne réussit pas à les guérir par des retours et des repentirs chaque jour plus rares. La tyrannie sèche et froide qui introduit dans le ménage la discipline militaire. La tyrannie polie et élégante qui, sous de beaux vernis, cache le plus profond égoïsme. Cela nous rappelle que les violences conjugales ne sont pas seulement physiques, elles sont souvent psychologiques.
Exactement. Et d'ailleurs, l'expression tyrannie, tyrannie de la force contre la faiblesse, sera utilisée par les premiers juges au tout début du siècle pour essayer de qualifier tout simplement ce qu'il se passait. Alors le formalisme gagnant, c'est une formulation qui a disparu des jugements, mais au tout début du 19e siècle, on voit effectivement l'expression de tyrannie domestique qui est clairement employée par la justice pour dénoncer ces faits.
Les juristes libéraux commencent à s'enhardir pour traiter des violences conjugales autour des années 1860, au moment de l'Empire libéral sous Napoléon III. De quelle manière ?
Ils ne sont pas sourds au discours féministe, ils ne le suivent pas, mais en tout cas ils essaient d'en tenir compte pour dénoncer justement cette législation un peu trop dominante vis-à-vis de la femme. Alors ils essaient de revendiquer en tout cas la légitimité de la législation pénale et notamment la compétence des juridictions pénales pour pouvoir intervenir et faire condamner au pénal les violences. Parce que derrière ces actes, il y a des délits, il y a des crimes qui ne peuvent pas rester impunis. Donc il faut qu'il y ait action. Tous les discours, en tout cas tous les mouvements politiques qu'il y a eu autour de cette revendication de la suppression de l'article 213 a permis à certains juristes de légitimer cette compétence-là.
Les juges, mais aussi les professeurs, la doctrine est très importante. Vous citiez Paul Gide, on peut signaler que c'est le père d'André Gide, qui est professeur à la faculté de droit de Paris, et qui s'était indigné des inégalités que le code faisait naître. Tous ces gens sont hantés par la question de savoir si le droit de correction qui est suggéré par la puissance maritale auraient vraiment disparu ou pas.
Exactement, parce que ça leur pose un gros problème. Ce sont des comportements un peu archaïques, ils jugent archaïques d'un autre âge, et ils n'ont pas particulièrement envie de se dire que la société, qui est plus moderne, celle du 19e siècle, en soit encore à ce niveau-là des rapports entre l'homme et la femme. Mais étonnamment, il y a une décision qui va les troubler. C'est la décision de la Cour d'appel de Chambéry rendue en 1872.
Moment essentiel, racontez-nous ça.
Exactement. Alors, on est en plein retour à l'ordre moral, notamment du côté de la Savoie, et on a cette décision-là de la Cour d'appel de Chambéry. Alors, les faits sont assez simples. C'est une jeune femme de 19 ans qui s'est mariée avec un homme un peu plus âgé qu'elle, et elle est très coquette. C'est une femme passionnée qui préfère évidemment s'habiller, flâner, lire des ouvrages peu recommandables plutôt que de s'occuper de son ménage, et en l'occurrence
c'est
de son mari.
C'est très mal.
Et son mari n'est pas très content. Il l'a un petit peu bousculée, brutalisée, en lui rappelant quelle était sa condition de femme et qu'elle devait un petit peu s'occuper de lui. Elle prend un amant et elle décide évidemment dans la foulée de se séparer de son mari. Donc elle s'érige un peu en victime, mais le mari prend les devants finalement et il demande la séparation de corps puisque le divorce est interdit depuis 1816. Et il demande la séparation de corps non pas pour adultère, mais pour injure. Alors là, évidemment, elle s'insurge, parce qu'évidemment, elle n'a pas l'impression d'avoir injurié, même si, évidemment, les injures étaient réciproques. Et elle écrit de nombreux courriers dans lesquels elle se place un peu comme victime, au contraire, des violences de son mari. L'affaire est portée donc devant les juges, puisqu'elle fait appel. Et les juges, donc, en appel, eh bien, donnent raison au mari, en non seulement légitimant la démarche du mari, mais en plus en rappelant que bah, quelquefois il est légitime et bienvenu pour un mari eh bien, de corriger, certes à nouveau modérément, mais de corriger, de rappeler à l'ordre sa femme en usant un petit peu de brutalité.
Je cite le jugement, « Autant la femme doit être protégée contre une brutalité imméritée et persistante, autant il est impossible de ranger toujours parmi les injures et les sévices graves les actes de correction ou même, écoutez bien, de vivacité maritale. » Là, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises.
C'est-à-dire que bon, là, on accepte un petit peu que le mari fasse son petit Bonaparte, on le tolère.
C'est aussi le temps où on commence, du côté de la littérature, à se préoccuper davantage de ces questions et à faire souvent la distinction d'ailleurs sociale entre la bourgeoisie et le peuple, même si vous voyez dans vos tribunaux que la violence conjugale touche en réalité toutes les couches de la société. Au tout début de La Bête humaine, Zola décrit par le menu une dispute conjugale qui tourne mal et qui donne des frissons dans le dos. J'en cite quelques lignes. « Alors ce fut abominable. Cet aveu qu'il exigeait si violemment venait de l'atteindre en pleine figure, comme une chose impossible, monstrueuse. Il la jeta d'une secousse en travers du lit, il tapa sur elle des deux poings au hasard. Mais se laissant glisser, elle s'échappa, elle voulut courir vers la porte. D'un bond, il fut de nouveau sur elle, le poing en l'air, et furieusement, d'un seul coup, près de la table, il l'abattit. Il s'était jeté à son côté, il l'avait empoigné par les cheveux pour la clouer au sol. »
Là, Zola résume un peu tous les cas de figure de violence conjugale, c'est-à-dire c'est l'emportement, c'est l'aveuglement. On voit l'homme qui s'en prend avec rage, sans même regarder les coups qu'il assène sur son épouse. Et ça, c'est malheureusement résumé en une seule fois, en un seul fait, tout ce que les tribunaux, en tout cas au XIXe siècle, ont eu à connaître.
Avec le rôle de l'alcool ?
Avec le rôle de l'alcool, effectivement, qui est toujours là pour expliquer les coups, mais pas que. Hein. L'alcool, effectivement... L'ivrognerie, comme on disait, a été à l'origine de nombreuses querelles, mais souvent c'était des comportements tout simplement assez véhéments. Et puis le rôle, puisque les hommes estiment être dans leur bon droit. Et c'est ça qui posera d'ailleurs des difficultés dans le cadre des interrogatoires, puisque pour les accusés, ils ont agi tout naturellement. Une femme, elle a besoin d'être corrigée, point barre. Et c'est la représentation sociale hein, qui fait qu'on a toujours ce décalage entre, effectivement, d'un côté, on a la loi qui estime que, bien, non, on ne peut pas battre sa femme, et puis d'un point de vue culturel, le droit de correction perdure, tout simplement. Les adages continuent à dire que, bon, bah, mauvaise femme veut l'éperon, le bâton, etc.
L'éperon,
donc,
hein.
Voilà, donc on sent que, quelque part, tous ces petits brocards, tous ces petits proverbes continuent, en tout cas, à régir la vie de couple. couple.
Et c'est contre quoi s'élève, dans cette chanson interprétée par Jacqueline François, accusé, levez-vous, Charles Aznavour, qui en a écrit les paroles. C'est une chanson de 1956. L'accusé, ce n'est pas moi, dit la femme qui est traînée dans le prétoire pour avoir tué son mari. Je suis la victime.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Accusé, levez-vous, l'heure a sonné pour vous d'essayer de sauver votre tête. Car personne ici-bas n'a jamais eu le droit de dicter ou d'imposer sa loi. Je l'avoue, je l'ai tué, rien de prémédité, ça m'a pris tout à coup dans la tête. J'ai perdu mon sang-froid et pourtant, croyez-moi, de nous deux, la victime, c'est moi. Mes mains sont souillées du sang de mon cœur. Elles ont serré trop fort mon bonheur. Quand je les regarde, elles me font peur. Car elles sont froides et n'ont pas de cœur. Je vois son visage au fond de mes nuits. Et son corps volage étendu sans vie. J'ai tué ma chance, je n'ai plus d'espoir et plus d'espérance. Et quand vient le soir, parfois ça frappe dans ma tête. Pour moi, le drame se répète. Je vois tout ce qui s'est passé avant de me jeter au banc des accusés. Accusés, levez-vous, l'heure a sonné pour vous. Vous devez écouter la sentence. Les membres du jury à l'unanimité vous condamnent à perpétuité. Oh non, vous ne pouvez prendre ma liberté. Dieu m'accorderait plus de clémence. Vous n'avez pas le droit, lâchez-moi, lâchez-moi. De nous deux, la victime, c'est moi. Vous n'avez pas le droit, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi.
On pourrait avoir le goût, Victoria Vano, dans cette émission consacrée aux violences conjugales, de dédier cette chanson à Jacqueline Sauvage.
Oui, alors je vais un peu avoir un discours à contre-courant de tout ce qui avait été dit jusqu'à présent, parce que c'est vrai que cette affaire est assez délicate. Elle a davantage été jugée par les médias et dans l'espace public que dans le prétoire, puisqu'on n'a absolument pas du tout tenu compte de l'avis des deux jurés, des deux groupes de jurés qui avaient évidemment statué sur la culpabilité de Madame Sauvage.
Rappelez ce qui est arrivé.
Alors, Jacqueline Sauvage, victime depuis de nombreuses années des violences perpétrées par son mari, bien tout simplement a répondu à visiblement une de ses violences en lui tirant un coup de fusil dessus. Alors, moi je n'ai pas vraiment tous les détails, mais il semble que de toute façon, les premiers jurés l'avaient déjà condamnée. En appel, elle a été à nouveau condamnée et il y a eu tout un mouvement de femmes, des féministes à juste titre, écoutant l'argumentaire de l'avocate, qui ont voulu mettre en avant le fait que Jacqueline Sauvage n'avait pas porté plainte jusqu'à présent puisqu'elle était sous l'emprise de son mari.
Finalement, le président Hollande l'a gracié en deux fois.
Alors, il l'a gracié, mais il l'a pas gracié tout de suite, puisque évidemment, il faut distinguer entre ce que l'opinion veut et ce que la loi permet. Et il se trouve que, tout simplement, elle n'était pas en état de pouvoir sortir parce qu'elle n'avait pas encore compris ce qu'elle avait commis. Pour elle, effectivement, tout le procès avait été, avec son avocate, l'idée de dire qu'elle était victime, un peu comme dans la chanson, effectivement, elle était victime plutôt que elle, le bourreau, mais elle a quand même tué son mari et c'est quand même grave.
On voit émerger dans ce 19e siècle beaucoup des questions qui se posent aujourd'hui. Comment sait-on ce qui se passe? Dénonciation, possibilité des victimes d'être écoutées par les juges et par les policiers, la question du flagrant délit. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans l'atelier du juge? Y a-t-il des témoins? C'est une permanence qui vous frappe par rapport à nos jours, Victoria Vano, ou au contraire une évolution?
Enfin, je suis toujours un peu Désolée de dire ça, mais on a comme une permanence en fait des comportements, même si on a davantage d'arsenal législatif, davantage de textes mis à la disposition des magistrats, on se rend compte que finalement il est toujours difficile de démêler le vrai du faux, puisque tout se passe dans l'espace confiné du domicile. Et c'est très difficile effectivement pour le juge de pénétrer. Alors ça va être les arguments de l'un contre les arguments de l'autre, et souvent on va écouter la victime, on va essayer de comprendre ce qu'elle a fait. Alors ce qui a pu choquer certains historiens quand ils ont travaillé sur le 19e siècle, c'était de dire que la femme, finalement, elle n'était pas écoutée, qu'on l'interrogeait d'une manière un peu brutale. Non, pour les magistrats, comme pour aujourd'hui d'ailleurs, ils continuent encore à faire ça au niveau des interrogatoires, c'est qu'il faut essayer de comprendre si la victime dit vrai, si elle est vraiment victime ou si elle n'a pas essayé, évidemment, de camoufler ses violences et de elle-même commettre ce crime pour se débarrasser d'un mari qui ne la brutalisait pas plus que ça. Alors c'est vrai que c'est des propos très durs à entendre, mais il faut quand même s'assurer de l'état de victime avant de dire voilà, on a un accusé que l'on doit condamner.
On évoque aussi souvent la capacité d'écoute des policiers dans les commissariats. Alors, pour les femmes qui viennent, on a souvent dit qu'ils n'étaient pas prêts à le faire. C'est peut-être de moins en moins vrai.
Alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est vrai que si on regarde au cas par cas, les femmes souvent estiment ne pas être entendues. Alors au 19e siècle, on parlait des traditions du commissariat et souvent, effectivement, les policiers ne s'entremettaient pas entre les deux époux puisque c'était habituel.
Goguenard facilement.
Voilà, exactement. On dit, ils se disputent encore. C'est bon, on va pas se déplacer à chaque fois qu'il y a une dispute. Là, on a l'impression, à écouter certaines associations féminines, que les policiers, les gendarmes, en sont encore à cet état-là de dire, c'est les traditions du commissariat, on va pas se déplacer. Non. Il y a eu de réels efforts. Il y a des formations qui sont dispensées pour les policiers, les gendarmes. Et il y a une réelle tentative, en tout cas, un combat pour faire cesser ces drames-là. Et il y a même des cellules psychologiques qui sont présentes dans les commissariats et dans les gendarmeries, donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Il se trouve qu'évidemment, si on regarde au cas par cas, les victimes ont peut-être l'impression de ne pas se sentir écoutées. Et puis dans ces histoires-là de violence conjugale, il ne faut pas oublier quand même un autre acteur décisif, c'est le médecin. Le médecin de famille. Au 19e siècle, les médecins étaient capables d'évaluer les blessures, de déterminer, d'apporter une expertise médicale à la justice en disant que là, on a effectivement une répétition des coups, en expertisant le lieu des blessures. Et aujourd'hui, on se rend compte que le médecin a un petit peu perdu de vue ça et on se retrouve avec un médecin de famille qui n'est pas prêt à aider, à accompagner la victime des violences, comme si il n'avait pas à s'entremettre dans ces conjugalités-là. Donc, s'il y a effectivement une sensation que la police ne les écoute pas, je serais tentée de dire, mais les médecins ne les écoutent pas non plus. Donc, je pense que c'est au cas par cas qu'il faut gérer ça et ne pas dire que ça n'a pas changé. Je pense qu'il y a une réelle évolution par rapport au 19e siècle et que c'est quand même un peu mieux géré aujourd'hui.
Avec l'apparition dans la seconde partie du 20e des instances à quoi on peut faire appel, SOS, femmes battues, etc. Ou même la radio. La radio commence à jouer son rôle au mi-temps du 20e siècle. Écoutez donc la réponse qu'apporte l'avocate Yvonne Netter à une auditrice qui est battue par son mari. On est dans le cadre du journal Parlé, l'émission La femme et le foyer, 25 septembre 1950.
Bonjour mesdames. Nous commençons ce matin notre émission par les questions juridiques. Voici donc la lettre que nous écrit une auditrice. Mon ménage est infernal. Je ne vais pas pouvoir continuer à vivre ainsi et je vais être obligée de demander le divorce. Pourtant, avant de commencer, il me faut quelques indications car je sais qu'il faut apporter la preuve de ce que l'on reproche au mari. Or, les scènes qu'il me fait ont toujours lieu à la maison, sans témoin. Comment pourrais-je prouver qu'il est un mauvais mari? Je n'ai pas de lettre. Comment faire? Maître Yvonne Netter, à vous de répondre.
Je plains cette malheureuse auditrice qui nous appelle au secours. Elle a essayé d'endurer aussi longtemps que possible le martyre imposé par son mari. Elle ne peut plus continuer et va être réduite à se séparer de lui. Il vaut mieux en effet cela qu'une existence lamentable au cours de laquelle on se dispute quotidiennement. Avant de se séparer, pourtant, il faut tout essayer, tout mettre en œuvre pour tenter le sauvetage de cette union conjugale de laquelle on a tant espéré. Notre auditrice semble être de bonne foi et a, sans doute, fait l'impossible pour faire comprendre à son époux que ses procédés étaient défectueux et dérisoires. À l'heure qu'il est, On ne peut régner par la force et la violence. Mieux vaut demander à son partenaire d'agir avec amour et en toute indépendance. Le tyran n'a jamais vu l'esclave s'abaisser et l'aimer. Il se fait haïr, l'obéissance qu'on lui porte est toute de façade. Le tyran affaibli ne peut plus rien obtenir. Je conseille donc à notre jeune femme d'essayer encore de convaincre son mari. Peut-être cette auditrice n'a-t-elle pas su approfondir le cœur de son conjoint. Mais si vraiment sa conscience est tranquille et qu'elle est sûre d'avoir tout mis en œuvre pour le convaincre sans obtenir de résultat, alors qu'elle aille d'un pas ferme vers sa libération et qu'elle soit assurée qu'elle triomphera.
On est là, me semble-t-il, Victoria Vano, à un tournant. D'un côté, la vieille tradition du 19e siècle, soyez patiente, vérifiez que cet homme n'est pas meilleur qu'il n'apparaît, conserver le mariage sur la longue durée, et puis, si ce n'est pas possible, trouver les chemins vers votre liberté.
Exactement. Là, on a, alors pour les années 50, finalement, la même attitude que au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on enjoignait les femmes à être davantage patientes, que c'était un coup malheureux, qu'ils le regrettent. Et puis, si ça ne va pas, eh bien, on les engage à tout simplement se libérer, donc à demander le divorce. Mais derrière ces coups-là, quand même, il y a des délits, il y a des crimes, et jamais on ne conseille à la femme, tout simplement, de porter plainte. Et étonnamment, au 19e siècle, certaines femmes portaient plainte. Alors, il n'y avait pas énormément de plaintes, mais elles allaient quand même au commissariat porter plainte.
Il fallait beaucoup de courage.
Il fallait beaucoup de courage. Et puis souvent, en portant plainte, elles voulaient tout simplement que l'ordre, on va dire la justice, l'autorité, vienne tout simplement à son tour tenser le mari en lui rappelant qu'il n'avait pas à battre sa femme. Parce que souvent, quand la procédure était engagée, on retrouve des témoignages de femmes devant le juge en disant « mais je voulais juste qu'il arrête, je ne voulais absolument pas du tout le faire condamner ». Donc, mais derrière, quand même, il y avait cette volonté de plainte-là. Et on se rend compte que, là, dans les années 50, finalement, non, on lui demande encore à cette femme de, un peu comme l'entourage au 19e siècle faisait pour l'épouse, dire, non, continue, essaie de le convaincre. Et en
le
gros,
tyran.
Voilà.
Tyran.
C'était un moment d'égarement. Il faut, en gros, l'éduquer, le remettre dans le droit chemin et pour que finalement, le couple perdure.
Il y a une notion qui émerge au XXe siècle, c'est la question du viol conjugal, qui n'était pas dans l'esprit des juristes du XIXe siècle, le devoir conjugal étant évidemment essentiel. Tout récemment encore, d'ailleurs, il y a des permanences, un juge à Nanterre avait fait remarquer à une victime qu'en faisant chambre à part, elle se soustrayait au devoir conjugal. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a indigné.
Exactement. En fait, on part du principe que dans le mariage, le but essentiel, c'est de procréer. Donc, il y a forcément consommation, donc rapport sexuel.
Le viol apparaît comme un crime.
Alors, il se trouve que le viol n'est pas envisageable, et ça pendant très très longtemps. Puisque,
maintenant.
Alors, depuis la loi de 1980, oui. Mais il faut attendre quand même les années 90 pour que la Cour de cassation vienne finalement reconnaître aussi dans les faits et en droit ce viol conjugal, parce que les juges du fond, comme on dit souvent, ne reconnaissent pas, parce que c'est le libitum conjugale. Il doit y avoir des rapports entre époux et il ne peut pas y avoir de viol.
Alors, avant de conclure cette conversation, Victoria Vano, voyons les évolutions plus récentes. On commence à bouger un peu avant Vichy, qui revient en arrière, on commence à bouger un peu dans les années 30. Écoutez donc cette interview de Gabriel Delattre, c'est un député des Ardennes qui rapporte la loi sur la femme mariée le 1er février de l'an de grâce 1938. À nos yeux, il est encore très, très, très enraciné dans le 19e siècle, mais il est très fier de ce qu'il apporte comme une nouveauté, c'est-à-dire en particulier l'idée que la notion de chef de famille désormais va tenir la place de l'idée de domination par le père. Écoutons Gabriel Delattre.
J'ai en effet rapporté la loi sur la capacité civile de la femme mariée devant la commission de législation civile. On m'a dit que la formule « la femme doit obéissance à son mari » serait bientôt supprimée du code, c'est une révolution. Eh bien hier, la commission de législation civile a décidé, après le Sénat, que cette formule disparaîtrait du code. Elle a d'ailleurs été remplacée par une autre formule « chef de famille ». Mais cette formule « chef de famille » est beaucoup plus souple que la formule « la femme doit obéissance à son mari ». Cette nouvelle formule implique plutôt une idée de direction morale du foyer qu'une idée de commandement. Cette transformation, je le sais par de nombreuses féministes qui sont venues me voir, cette transformation leur est particulièrement agréable. Il leur apparaît qu'elles ne se trouvent plus dans un état de subordination et qu'elles ont ainsi acquis une certaine indépendance morale à laquelle, selon moi, elles ont parfaitement droit.
Pouvez-vous nous donner un exemple pratique de la transformation ainsi réalisée par le Parlement ?
La femme, désormais, pourra avoir, sans la moindre des difficultés, un passeport. Elle pourra avoir un compte en banque. Au point de vue judiciaire, par exemple, elle pourra ester en justice sans l'autorisation de son mari. Et une chose encore fort intéressante, si le mari refuse de lui accorder le droit d'exercer une profession séparée, la femme pourra demander alors l'autorisation au tribunal. Il est arrivé fréquemment que des maris aient refusé à leur femme d'être actrice. Eh bien, si le mari désormais refuse cela, la femme désireuse d'être actrice pourra demander au tribunal l'autorisation et le tribunal souverainement appréciera la situation.
Ce député Gabriel Delattre est très fier de ce qu'il apporte de nouveau, mais qui à nos yeux nous paraît, non, Victoria Vano, continuer d'être enraciné assez loin dans le 19e siècle.
Oui, parce qu'en fait, comme il le, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, il supprime tout simplement l'obéissance de la femme en entérinant clairement, bon, bah, le mari, c'est le chef de la famille. Donc, finalement, bon, on enlève l'obligation de cette, de la femme, mais on confirme la domination du mari dans cet entre-deux. Donc,
la notion de chef de famille durera jusqu'en 1970.
Exactement. En 1970, l'article 213 sera complètement abrogé. Donc, on n'en parlera plus. Ce sera une histoire ancienne. Mais entre-temps, on a quand même essayé d'établir une forme d'égalité au niveau de l'autorité parentale, mais la femme n'avait pas tant de droits.
Il faut dire que, et nous conclurons sur ce point, il faut dire que des textes internationaux, du côté notamment de l'Organisation des Nations Unies, viennent contribuer, y compris dans les pays démocratie dites avancées, à cette évolution à partir de 1980-90.
Exactement. Alors, on a eu déjà un certain nombre de conventions, même dans les années 50, qui établissaient l'égalité homme-femme, et ça sera jamais plus que ça appliqué. Et puis dans les années 80, et qui permettra notamment au mouvement féministe français de prendre évidemment le contre-pied pour pouvoir amorcer les réformes, on aura une volonté effectivement de demander une égalité homme-femme, et notamment de faire cesser les violences conjugales. Mais tout ça sera très long à mettre en œuvre, et les féministes n'auront de cesse de revendiquer ces conventions, ce droit international là, pour que la législation française, elle, bouge. Mais les critiques faites sur cet article du Code civil et sur les violences conjugales étaient déjà faites au 19e siècle autour de Louis Bridel, qui était un professeur de droit suisse et qui dénonçait le Code français qui opprimait la femme.
On peut donc dire que malgré un arsenal législatif qui est plus consistant, la judiciarisation des affaires de violences conjugales est lente. Il y a encore peut-être, je parle à une historienne du droit, Victoria Vano, des progrès à faire, non ?
Il y a des progrès à faire. Alors, au niveau loi, il y a énormément de textes qui sont venus renforcer, en tout cas, et donner un certain nombre d'outils aux juges. Mais malheureusement, les violences conjugales se traitent davantage devant le juge aux affaires familiales que devant le juge d'instruction. Donc, ça aussi, c'est peut-être aussi à revoir, de se dire que derrière chaque violence, il y a des délits, il y a des crimes, et c'est au pénal que ça doit être traité.
Merci beaucoup. Je rappelle, Victoria Vano, le titre de l'ouvrage sur lequel nous avons fondé cette émission, La paix des ménages, histoire des violences conjugales, 19e-20e siècle, publié chez Anna Moza, une jeune et valeureuse maison d'édition. Ce livre vient d'être publié. Vous avez reçu une mention spéciale au prix Malesherbes de l'Association française pour l'histoire de la justice. Et puis, toujours sur le même sujet, vous avez dirigé avec Abdelhafid Amouche, un livre intitulé « Violence conjugale, rapport de genre, rapport de force », nous sommes au cœur de notre sujet, aux presses universitaires de Rennes en 2012. Et enfin, je salue votre livre qui s'appelle « Le chien, histoire d'un objet de compagnie », paru chez Autrement en 2014. Je rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons, à cause des turbulences qui actuellement secouent le MEDEF pour la succession de M. Gattaz, nous parlerons des patrons syndiqués dans la durée des républiques. Et je recevrai pour en parler Jean Garrigue. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Dophar Guéride, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.